Vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. N'oubliez pas, vous pouvez laisser vos commentaires sur la page de la radio ou sur la page Facebook de l'association. Alors aujourd'hui, fin d'une série d'émissions consacrée aux symptômes de la maladie d'Alzheimer. Nous avons parlé eh bien, de tous les symptômes au cours de ces 6 dernières émissions. La dernière, c'est aujourd'hui et elle est consacrée aux troubles de l'humeur et du comportement. Alors notre invitée pour cette émission, c'est toujours Judith Mollard-Palacios, la psychologue de l'association France Alzheimer. Bonjour Judith.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Valérie.
Merci de nous accompagner une nouvelle fois pour ce dernier épisode. Alors pour le commencer, les troubles de l'humeur et du comportement, on en entend souvent parler quand il s'agit de la maladie d'Alzheimer. Pour autant, que désignent vraiment ces troubles ?
Alors, donc, quand on parle des troubles de l'humeur, on parle en effet d'une modification de l'humeur de la personne malade. Alors souvent une modification qui peut aller soit dans le sens d'une dépréciation, d'une perte de l'estime de soi, accompagnée de parfois de tristesse, de réduction des initiatives. Il y a quelque chose comme ça qui peut s'installer. Alors souvent en parallèle l'apparition et de l'évolution des troubles cognitifs, la personne sent qu'elle perd ses outils cognitifs, qu'elle n'est plus en mesure de maîtriser les choses comme avant, et donc ça produit des effets sur son humeur, donc sur un versant plutôt dépressif. Ça peut être aussi les troubles de l'humeur, l'expression d'une anxiété qui peut être de plus en plus présente dans le quotidien de la personne et qui est là encore très en lien avec les difficultés cognitives. La personne appréhende, redoute de réaliser donc des actes de la vie quotidienne parce que elle n'a plus tout à fait ses outils à disposition comme avant. Et donc cette anxiété, elle peut être de plus en plus envahissante et entraîner une agitation, une agitation anxieuse, peut entraîner là aussi une réduction des activités, peut entraîner des troubles, même parfois de l'alimentation, des troubles du sommeil. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un trouble anxio-dépressif qui est quand même assez fréquent et qui d'ailleurs, au tout début, même avant que la démarche diagnostique soit menée, peuvent être déjà au premier plan du tableau symptomatique. Et d'ailleurs, il va parfois falloir faire un diagnostic différentiel entre un début de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée et une dépression qui pourrait s'installer. Voilà, donc ça concerne les troubles de l'humeur et qui, dans l'évolution de la maladie, notamment le trouble anxieux, peut être majeur et entraîner des troubles du comportement. Une déambulation anxieuse, une agitation, l'expression d'une souffrance aussi à travers les mots, mais parfois aussi à travers des cris. À côté de ça, peuvent apparaître, tout ça n'est pas non plus obligatoire, une fatalité, peuvent apparaître des troubles du comportement. Et donc, qui sont les troubles du comportement. On peut avoir un comportement agressif qui s'exprime progressivement. Souvent, quand les mots sont plus tout à fait à disposition, le comportement prend le dessus sur le langage et la personne peut avoir une agressivité qui s'exprime. Donc, au début, elle peut être verbale, et puis elle peut ensuite se traduire par des gestes agressifs. Alors, cette agressivité, elle est rarement gratuite. Enfin, elle est souvent en lien avec une situation où la personne ne comprend pas, par exemple, un soin qu'on lui propose et ne comprend pas qu'on limite sa liberté, par exemple, d'aller et venir ou sa liberté de gérer son argent. C'est souvent l'agressivité, elle n'apparaît pas comme ça. Elle s'explique Sauf que, bien, c'est des situations où il est difficile de ne pas limiter la personne pour souvent la protéger. Donc, dans les troubles du comportement, on a donc l'agressivité, on a la déambulation, c'est-à-dire une activité motrice intense, avec ou sans but, mais qui peut à terme poser souci, là aussi, en termes de sécurité de la personne, si celle-ci quitte son domicile et a des difficultés à se retrouver. Voilà, il peut y avoir aussi des inhibitions, c'est-à-dire que la personne exprime ses pulsions plus librement, on peut dire ça comme ça, avec des comportements qui peuvent poser souci parfois, dans les relations sociales.
Alors, concernant tous ces troubles que vous venez d'évoquer, à quel moment de la maladie se manifeste-t-il ? Est-ce plutôt en début, au milieu ? Est-ce que finalement ça accompagne le patient tout au long de la maladie ?
Tout d'abord, je crois qu'il faut bien rappeler que la maladie va se vivre d'une façon très différente d'un sujet à l'autre. En règle générale, donc les troubles de l'humeur apparaissent d'abord, inaugurent même parfois, accompagnent la démarche diagnostique, sont présents au début et au stade modéré, voire sévère de la maladie. On peut d'ailleurs aussi trouver une labilité émotionnelle, où la personne passe d'un état émotionnel à l'autre avec des changements d'humeur qui peuvent aussi être assez fréquents en fonction de la situation, en fonction de l'environnement. Et évidemment, cela peut déstabiliser beaucoup l'entourage, notamment l'entourage familial. Les troubles du comportement vont plutôt survenir plus tardivement, à un stade modéré, voire sévère de la maladie, mais ne peuvent ne jamais s'exprimer non plus. Je crois qu'il faut être vigilant à ne pas attendre, par exemple, que la personne exprime des comportements agressifs, parce qu'on va finir, si on les attend, par les faire arriver. Donc, voilà, c'est pas une fatalité. Certaines personnes vont exprimer ces troubles et d'autres non.
Alors justement, vous parliez de l'entourage qui est en première ligne finalement face à ces troubles de l'humeur et du comportement. Quelle est leur attitude ? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller justement en ce moment à ceux qui nous écoutent en tout cas ?
Alors en ce qui concerne les troubles de l'humeur, je crois qu'il est vraiment important de pouvoir offrir à la personne un espace d'écoute, qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ressent. On peut parfois avoir tendance, pour rassurer la personne, à banaliser, mais non, tu vas voir, tout va bien se passer. En même temps, on empêche finalement les choses de se dire, de s'exprimer, de se mettre en mots. Donc on va vraiment essayer de favoriser l'expression de la perte d'estime de soi, de l'inquiétude, de la peur, des peurs à venir, de ce qui va se passer avec la maladie, vraiment essayer de permettre à la personne de s'exprimer. Alors pour les aidants proches, c'est pas toujours facile, donc il ne faut pas hésiter à faire appel à un professionnel, à un psychologue, pour que les choses puissent se faire, se dire dans un espace privilégié avec un professionnel. Donc c'est le métier de pouvoir accueillir, recevoir et élaborer avec la personne autour de son vécu interne. Un vécu interne, évidemment, qu'on peut bien imaginer angoissant, déstabilisant, quand on commence à perdre ses outils cognitifs. Pour les troubles du comportement, ce qui est important aussi à dire à l'entourage, c'est de ne pas avoir le sentiment qu'on y est pour quelque chose, ou que tout ça nous est destiné personnellement, directement. Alors, c'est pas toujours facile, parce que notamment quand des expressions d'agressivité s'expriment, c'est jamais simple à recevoir, mais tant que faire se peut, ne pas les recevoir de plein fouet. Et là aussi, évidemment, conseiller aux aidants d'avoir des espaces où eux-mêmes puissent déposer les difficultés qu'ils rencontrent et qu'ils puissent être guidés, accompagnés pour faire face à ces attitudes et ces comportements troublés. Ce qu'on peut aussi conseiller aux aidants, c'est que quand la personne est dans un moment difficile, ne pas insister, ne pas essayer de la raisonner ou de la convaincre de de quelque chose, mais plutôt voilà, laisser et puis revenir hein, quelques minutes ou quelques heures plus tard, mais ne pas utiliser le raisonnement, par exemple, hein, qui souvent voilà, ne va pas être accessible pour la personne.
Eh bien, merci beaucoup, Judith Mollard-Palacios, pour tous ces conseils et puis de nous avoir accompagnés tout au long de ces 6 dernières émissions.
Merci, merci à vous.
Et on se retrouvera bien sûr pour un prochain épisode de Vos questions, nos réponses. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez réagir et poser vos questions sur l'espace commentaire de la radio, hein, c'est juste en dessous ce player, ou sur la page Facebook de l'association. Et puis bien sûr, vous pouvez réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.